Radio Okapi. Grande interview.
Bonjour, je suis Alain Irong Mouchinge. Dans Grande Interview aujourd'hui, Martial Kizabiamungu reçoit le général Johnny Luboya Nkashama, gouverneur de la province de l'Ituri. Il fait le point de la situation sécuritaire, socio-économique et humanitaire plus d'une année après l'instauration de l'état de siège dans cette province. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Général Johnny Luboya Nkashama, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà un an et deux mois déjà depuis que vous êtes à la tête de cette province. Quel est l'état des lieux actuel de l'Ituri?
Je peux dire que la province va plus ou moins bien. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, comme vous le savez. Nous avions commencé avec les opérations et aujourd'hui, avec cette pression que nous avons faite sur les groupes armés, je peux vous dire que nous sommes maintenant dans les actes d'engagement. Vous avez vous-même suivi que nous avions Nairobi 1, où il y avait des groupes armés qui s'étaient, n'est-ce pas, présentés au Kenya. Et cette fois-ci, nous en aurons davantage. Et donc, ça, c'est une très bonne chose. Et sur le plan du développement, je crois que vous avez vu toutes les ouvertures que nous avons faites sur les nationales. Et donc, mais nonobstant tout ce que nous avons, des petits problèmes aussi que nous avons, parce qu'il ne faut pas dire que parce qu'on a décrété les actes d'engagement et que ça va s'arrêter aujourd'hui. Non, donc il y a toujours des subresauts comme ça, comme ce qui s'est passé en Zébi et tout, mais nous pensons que ce sont des choses qui vont s'arrêter d'elles-mêmes d'ici là.
Sur le plan sécuritaire, vous l'avez dit, beaucoup pensent que les actes d'engagement que certains groupes armés, si je peux les citer, notamment CODECO, FPIC et FRPI, ont signé, étaient un coup d'épée dans l'eau. La preuve sur le terrain, ces miliciens continuent à commettre des exactions contre la population. Comment expliquez-vous cela? Et c'est uniquement un problème de prise en charge de ces rebelles?
Il y a aussi un problème de prise en charge. Vous savez, tous ces groupes qui étaient habitués à extorquer, qui étaient sur les grandes nationales, qui étaient, je ne sais pas moi, dans les mines, ils n'y sont plus. Et donc, ça devient un peu difficile de survivre. Mais l'autre chose aussi, c'est le lien de subordination. Vous savez, ce sont des petits groupes comme ça, ici, qui n'ont pas un lien de subordination. Et que donc, ça, c'est un problème que nous avons. Des fois, quand, n'est-ce pas, celui qu'on pense être le chef donne des ordres, il y a toujours des indisciplinés à côté. Et donc, c'est ce qui fait que nous avons, comme ça, ici et là, tous ces petits groupuscules qui continuent, n'est-ce pas, à semer un peu le désordre.
Dernièrement, ces groupes armés se sont même bâtis pour des causes non encore élucidées. Il y a eu des morts. Comment pensez-vous encadrer tous ces jeunes gens avec des armes qui circulent dans certaines entités?
En fait, d'abord, le grand problème, c'est que les Congolais doivent savoir, c'est qu'il n'y avait pas tellement d'objectifs. De sorte que c'était un peu du chacun pour soi. Et donc, il y a aussi ceux-là qui n'ont pas cru à notre processus. Quand nous avons amené les gens à Nairobi, certaines n'y avaient pas cru. Mais aujourd'hui, tout le monde veut s'engager. Mais malheureusement, bon, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de lien de subordination. Et donc, quand il n'y a pas de lien de subordination, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut se positionner. Il y a une lutte de positionnement. Et c'est comme ça que vous voyez, chacun veut montrer qu'il est fort ici, il est fort là-bas, pour que dans la deuxième phase de Nairobi, il puisse être représenté. Mais la communauté est déjà sensibilisée. Les grands leaders de communauté qui étaient même repartis à Kinshasa reviennent demain et ils vont encore continuer à parler à leurs frères. Vous savez, c'était un grand désordre depuis très longtemps. Donc, on ne peut pas se dire que là, Iketnung, ça va s'arrêter. Donc, nous sommes en train d'organiser. C'est un long chemin périlleux, mais nous sommes déterminés et nous restons ténaces.
Général Luboya Nkashama, à quand les débuts effectifs du processus de 2DRCS que tout le monde attend impatiemment en Ituri? Que répondez-vous à ceux ou celles qui affirment que ces 2DRCS RCS risque de se terminer comme ses ancêtres, c'est-à-dire sans résultat probant.
Non, je pense que maintenant il y a quand même un engagement. J'ai reçu dernièrement une grande délégation avec le colonel Bossalé qui était ici. Et donc nous avons déjà fait toutes les reconnaissances, nous connaissons les sites, avec d'ailleurs le contact que nous avons avec les groupes armés, on sait où est-ce qu'ils vont aller dès que les fonds seront disponibles. Et donc il y a les fonds de cohérence que nous aurons d'ici là. Vous savez, la différence maintenant c'est quoi? La première fois c'était plus la communauté internationale qui était en train de gérer. Mais aujourd'hui c'est nous-mêmes les Congolais, non seulement les Congolais, je veux dire, c'est le niveau local ici, c'est le gouverneur qui est le premier responsable du PDDRCS. Et donc, c'est moi, je suis ici au niveau opératif et je peux voir, je sais comment est-ce que je peux gérer les fonds, je connais le problème et ce sera plus facile que de donner des fonds à des personnes qui ne connaissent rien de ces groupes armés et qui viennent comme ça. Voilà ce qui a fait qu'on puisse avoir un peu l'échec. Mais maintenant, nous connaissons, je sais de quoi il s'agit, de quoi ça retourne. Je crois que ça sera plus facile pour nous, n'est-ce pas, de gérer le PDDRCS.
Donc pour dire que jusque-là, on n'a pas une date fixe qui est connue où ce programme sera effectif sur le terrain pour l'encadrement de tous ces jeunes gens avec des armes qui sillonnent dans plusieurs entités.
Non, nous leur parlons. Il faut dire qu'il y a beaucoup de volonté aujourd'hui. Je crois que vous avez vu l'administrateur du territoire des Rumou, vous l'avez vu. Vous avez vu qu'il était avec le grand responsable de FPIC, ce qui n'a jamais été fait. Et donc nous les sensibilisons et nous savons que les fonds vont arriver. Je vous ai parlé des fonds de cohérence qui vont arriver incessamment. Et donc aujourd'hui encore, nous étions en train de travailler sur les sites et tout. C'est un long processus. C'est vrai, on est pressé, mais en même temps, nous devons connaître nos objectifs et être sûr que quand nous avançons une fois pour toutes.
Parlons du développement des infrastructures à Ituri. Où sommes-nous avec les projets de réhabilitation des infrastructures routières, notamment la route Mongwalu, Maagiport, Djegou, dans les territoires de Maagi, bien sûr, en état très déplorable, et d'autres axes aussi sont concernés?
Non, c'était en état déplorable. C'était, pas plus maintenant. Nous avons beaucoup avancé, je crois que vous le savez. Par exemple, Iga Barrière, Mongwalu, je crois que nous sommes à 15 km de Mongwalu. Donc d'ici là, nous allons arriver à Mongwalu. Nous prenons la RN27. Vous partez de Bounia jusqu'à Maagi. Aujourd'hui, au lieu de faire 3 ou 4 jours, nous faisons 3 heures. Dans la ville ici, et je crois que vous voyez les travaux qui sont en train d'être faits avec Mongabaon pour la réhabilitation des routes de la voirie urbaine. Vous avez aussi l'aéroport aujourd'hui qui doit être rallongé. Et donc là, nous avançons aussi. Les travaux ont déjà commencé. Nous avons le territoire des Rumou, là où nous voulons montrer vraiment que l'État est revenu, l'autorité de l'État. Il faut voir cette présence-là. Je crois que si tout va bien, dans 30 jours, tout au plus 45 jours, nous allons inaugurer les grands bureaux du territoire des Rumou avec les villas qui ont été construites pour cette grande autorité qui est l'administrateur de Rumou. Et à Mambasa aussi, nous avons Makeke. Mambasa-Makeke, la route est très bien faite avec Jerison. Je crois que vous pouvez y aller et vous allez vous rendre compte. Nous sommes en train d'avancer. À Mambasa, c'est même fini. D'ici, vous prenez Bounia-Kasenyi. Là aussi, on faisait toute une journée. Aujourd'hui, c'est 70 minutes. Vous êtes à Tchomia. Donc, la route, elle est finie. Et donc, il ne reste peut-être que l'entretien. Voilà.
Entre-temps, à Komanda, le bâtiment ou la grande salle qui était en construction, les travaux sont suspendus. Pourquoi?
La grande salle de Komanda? Non, la Komanda, nous n'avons pas été engagés expressément, mais nous avions commencé. Donc, nous, notre effort principal, c'était d'abord le territoire. Et le territoire qui est à Irumu territoire. Et après, là-bas, nous avons fini avec la tribune. Aujourd'hui, vous pouvez voir que la tribune est très bien faite. Pour le reste, nous allons tout y programmer pour que nous avancions.
Ne vous sentez-vous pas seul parfois pour gérer toute une province comme celle-ci, au plan sécurité, social, économique, les infrastructures? Certains vous accusent même de vous occuper plus des aspects militaires, alors que les autres chantiers sont en cours.
Non, je ne me sens pas seul. Vous ne pouvez pas vous imaginer le souci du chef de l'État. Vous êtes ici à Bounia. On a parlé de l'aéroport. Ça fait combien de temps qu'on chante cette chanson-là de l'aéroport de Bounia? Rien n'a jamais été fait. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de voir que le chef de l'État a décidé et aujourd'hui, l'aéroport est en train d'être construit. La piste, du moins, d'être rallongée. Alors, le développement. Non, il faut une thérapie collective. Vous savez, j'ai toujours dit, ce qu'on appelle les opérations, c'est ce que nous avons de plus facile pour les groupes armés locaux. Mais ce sont nos populations. J'ai des hélicoptères, j'ai l'artillerie. Allez, n'est-ce pas, bombarder un tapis de bombes, je ne sais pas. pas moi, si vous avez vu Kobo, vous avez vu tous les environs là-bas, à quoi ça ressemble. Ça, c'est ce qui est plus facile. Mais nous nous sommes dit, il faut qu'on change les choses. Non, je ne suis pas seulement ce monsieur-là qu'on veut qu'il tire sur tout ce qui bouge, mais je suis aussi un bon père de famille, comme je l'ai toujours dit. Il faut que l'État ait aussi un visage, que toute cette population voit que je suis là, que je m'occupe d'elle. Il ne faut pas toujours tout le temps opération, opération. Oui, les opérations que je peux faire. Les opérations que nous nous sommes venus faire ici, c'est plus les ADEF. Et nous allons y arriver. Et pour le reste, il faut ce que moi j'appelle une thérapie collective. Et la thérapie collective, c'est quoi? Montrer que cet État existe, cet État qui était failli ici à Ituri existe et il est revenu. Et que donc, la population peut faire confiance à cet État-là. Voilà ce qui est nécessaire. Et elle va faire confiance quoi? En voyant sur le terrain que les choses progressent, que les routes sont en train d'être faites, refaites, que les hôpitaux sont en train d'être reconstruits. Voilà, voilà, c'est ça la thérapeutie collective.
Retournons un peu en arrière pour parler encore de la sécurité. Après une accalmie dans la région de Boga et Tchabi ces derniers jours, nous observons plusieurs attaques des ADEF contre les civils. Qu'est-ce qui explique cette résurgence de l'activisme de ces groupes armés dans cette région où pourtant sont menées des opérations conjointes entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise, le FARDC?
Dans les environs de Boga et Tchabi, là-bas, nous vivons une situation un peu malheureuse. Malheureuse pourquoi? Parce que il y a eu une communauté qui s'est liée aux ADEF. Nous avons donné des conseils et même les responsables de cette communauté ont donné aussi des conseils. J'ai l'impression que ils ont commencé à comprendre. Et donc, ils sont en train de se détacher de ces ADF-là. Mais malheureusement, les ADF se sentant seuls maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant vouloir se venger sur cette communauté-là. Et c'est ce que vous êtes en train de voir, Bossio, Malaya, ainsi de suite. Ce sont les ADF au motif que ils ont même emporté nos armes, ils ont fait ceci. Et donc, les ADF sont en train de se venger sur cette communauté-là. Moi, je félicite cette communauté parce que quand même, elle a entendu non seulement la voix du gouverneur, parce que maintenant, tout le monde voit qu'il y a des actes d'engagement et tout pour aller vers la paix. Je crois que cette communauté aussi a compris que non, il faut aller vers la paix. Elle est en train de quitter les ADF, mais avec les conséquences malheureusement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est cette communauté qui est vraiment visée. Je crois que vous êtes au courant, il y a même des lettres qu'on leur envoie pour les faire chanter, ainsi de suite. Mais je les encourage, ils doivent quitter, ils doivent quitter les ADF, il n'y a pas d'autre issue.
Et si vous faites allusion à quelle communauté, loin d'être identitaire?
Non, je crois que cette communauté va se reconnaître. Je ne voudrais pas que, n'est-ce pas, que ça crée encore des polémiques. Nous en avons tellement parlé. Tout le monde sait de quelle communauté je parle.
Malgré la paix est absente aujourd'hui, mais elle mérite d'être retrouvée. Olivier Baimuka, Papa Matilou Koufakala. Olembi na bitumba na iturie ba iturie nyoso to la mukae bita haita tusaidia baningae to sengi kimia na iturie nzambe olembi na bitumba. Olembi na bitumba, lorsque la paix apparaîtra, la guerre disparaîtra. Oh, la guerre. Koboma batu pambate, la guerre n'est pas bonne, la guerre. La paix nous exige la tolérance, la réconciliation, les pardons mutuels. La guerre n'est pas bonne, la guerre. Ituriye,
tukue na mapendo.
Arue.
Tukue na mapendo.
Fatakie.
Tukue na mapendo.
Nabunyae.
Tukue na mapendo.
Radio Okapi. Grande interview.
Dans Grande interview aujourd'hui, Martial Kizabiamungu reçoit le général Johnny Luboyan Kachama, gouverneur de la province de l'Ituri. Il fait le point de la situation sécuritaire, socio-économique et humanitaire plus d'une année après l'instauration de l'état de siège dans cette province.
Sur le plan humanitaire, la province traverse un moment difficile avec un nombre élevé de personnes déplacées. Celle-ci avoisine 2 millions de personnes déjà déplacées dans la province. Ces personnes vulnérables peuvent-elles espérer une aide du gouvernement pour soulager leurs souffrances?
Je pense que c'est les derniers moments ici, à part ce qu'il y a eu dans les environs de Mungwalu aussi. Les gens sont en train de rentrer chez eux, et même à Boga là-bas. Maintenant, vous savez ce qui est bon? J'ai fait une réunion avec les humanitaires. On parle plus de retourner maintenant. Avant, on parlait des déplacés seulement. Aujourd'hui, on parle de retourner aussi. C'est pour vous dire que les gens veulent rentrer chez eux, parce qu'ils ont vu qu'il y a quand même des avancées. Les Codeco, aujourd'hui, ils ne vont pas attaquer comme ils faisaient les sites des déplacés, ou bien attaquer une autre communauté. Non, maintenant, ils se tabassent entre eux, ils se battent entre eux. Pour un positionnement. La population rentre chez elle. Ce n'est pas vraiment ce que nous voulons. Par exemple, si vous allez à Irumu, c'est chaque jour que j'envoie des camions qui vont vers Boga, qui vont vers Chabi. Le reste, là, je ne pense pas qu'ils sont dans les 2 millions. Je pense qu'ils peuvent être dans les 1 500 000, 1 400 000. Là, le gouvernement, chaque fois, fait une descente ici par l'entremise du ministre des Affaires Sociales, Excellence Mutinga. Je crois que vous l'avez vu ici plus d'une fois, avec une grande cargaison de vivres pour tous se déplacer. Le gouvernement m'aide beaucoup.
Dernièrement, vous l'avez dit, vous étiez en réunion avec les humanitaires qui ont sollicité des garanties pour accéder à des zones où il y a des populations déplacées. Du côté Boga et Chabi, quelle a été votre réponse?
Je leur ai dit que je suis avec eux. Vous savez, ces gens-là doivent avoir, ce que je dis, un traitement préférentiel. Ce sont souvent des étrangers qui viennent de loin et à qui nous devons assurer la sécurité. Je crois que vous êtes au courant aussi. J'ai envoyé un renfort à Boga et à Chabi. Le commandant secteur va y aller, je crois, dans les 48 heures. Le milieu est sécurisé. Le grand problème, c'est que, bon, cette communauté qui est en train de revenir, c'est la tension maintenant qu'il y a, comme la communauté est en train de revenir à Boga et à Chabi, après tout ce qu'il y a eu à Boussio et tout. Maintenant, il y a une tension où on ne sait pas, les gens disent, est-ce que la communauté là n'est pas venue avec les ADF pendant qu'elle était en train de se déplacer? Mais nous pensons que s'il y a des infiltrés, avec tout ce que nous avons amené comme dispositif et le commandant secteur qui va aller là-bas, je crois que toutes ces histoires-là devront être bien réglées.
Général Luboyan Kachama, parlons des droits de l'homme. Il y a quelques jours, un journaliste ou un ancien journaliste a été tué par un militaire des FRDC vers Komanda. Cet incident tragique n'est pas isolé. Certains militaires sont aussi accusés de violences contre des civils. La troupe échapperait-elle à votre autorité? Ces hommes en uniforme sont-ils inquiétés?
Je crois que vous avez l'exemple, monsieur le journaliste. Vous avez l'exemple avec tout ce que nous faisons. D'ailleurs, on dit même que j'ai puni beaucoup. Non, là, vraiment, vous savez, je suis sans quartier quand il s'agit de l'indiscipline ou quand il s'agit des criminels et tout. Pour ce qui s'est passé il y a une semaine, on a déjà arrêté le militaire. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui veulent manipuler. Ou s'ils ne veulent pas manipuler, ils ne vont pas à la source rechercher la vraie information. De quoi s'agit-il? Moi, l'information que j'ai, c'est qu'un ancien journaliste, et ça, il y aura une audience foraine là, un ancien journaliste, dit-on, un ancien journaliste transformé en réparateur de moto à automobile a escroqué un militaire. Et ce militaire-là lui a donné tout son salaire pour la réparation de la moto. En plus, il a encore donné au-delà. Il a donné d'abord 182 000 francs et puis il a donné encore 85 000 francs. Et ce monsieur n'a jamais réparé sa moto. Et ce militaire-là, comme tout militaire, il est allé rendre compte à son chef direct. Malheureusement, il n'y a pas eu de solution. Après son chef direct, il est allé même au niveau du bataillon. Donc après la compagnie, il est allé au niveau du bataillon pour dire qu'il a suivi le chargé des opérations. Il n'y a pas eu de solution. Il a parlé même à ses amis, il n'y a pas eu de solution. Malheureusement, il s'est rendu justice lui-même, il est rentré, il a demandé au monsieur, au réparateur journaliste, et voilà, il y a eu une altercation, et voilà, et il a tiré. Mais le militaire a été appréhendé. Il est devant la justice et nous nous présentons des condoléances. C'est encore un citoyen congolais de plus. Quelle que soit la faute qu'il a commise, le monsieur, là, le militaire, n'avait pas le droit de lui ôter la vie. Ça, nous regrettons vraiment et il sera jugé devant tout le monde. Alors, le problème, c'est lequel maintenant? Et c'est là où on doit faire la différence. Et je demande aujourd'hui encore aux responsables ici, UNPC et tout, ils doivent descendre, qu'ils aillent dire, qu'ils aillent voir si effectivement le militaire a tué ce monsieur en tant que journaliste ou bien en tant que réparateur de moto. Ça, c'est très grave. Automobile, c'est pas loin. C'est à côté ici. On peut aller vérifier. C'est regrettable, c'est cette mort de plus. Mais en même temps, on ne doit pas toujours vouloir, changer la vérité, pervertir la vérité. Moi, ici, et vous pensez que ça me met à l'aise, moi, quand un militaire commet une infraction ou il pose un acte irresponsable, de le prendre et de l'exposer devant les gens ici? C'est vrai, je dois le faire, mais je ne suis pas à l'aise. Mais comment est-ce que des journalistes, vous voyez un journaliste escroc et tout, au lieu de dire qu'effectivement, je ne sais pas si, en tout cas s'il était vraiment journaliste, mais comment est-ce qu'on peut dire que non, on lui donne cette qualité alors qu'il a escroqué? Non. En tout cas, à ce que je sache, ce monsieur-là était réparateur, même si avant il avait qualité de journaliste, mais c'était en dehors de cette qualité-là.
Monsieur le gouverneur, nous sommes en train d'échiter, petit à petit, sur les plans politiques, on vous acquise de refuser de payer leurs émoluments aux députés provinciaux. Qu'en est-il exactement?
Mais vous savez, Monsieur Martial, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Les gens crient à longueur de journée. Vous savez, Ituri, si nous survivons ici, je pense que... Bon, de toutes les façons, le jour où je ne serai pas là, je serai rentré dans l'armée, vous allez voir à quoi ça ressemble. Mais on crie l'incivisme fiscal ici tous les jours qui passent. Et personne ne s'oppose à ça. On veut que les Ituriens continuent à ne pas payer les taxes, à frauder, ainsi de suite. Des gens de mauvaise volonté. Vous demandez qu'on achète les plaques des motos. Vous voyez la réaction? On dit aux gens, non, n'achetez pas. On demande les taxes. Non, les gens sont sur la rue. Avez-vous entendu un seul député demander, n'est-ce pas, sensibiliser? Parce que pour avoir cet argent, c'est cette population ici qui doit payer les taxes. Si elle paye les taxes, moi aussi, je peux aussi payer au retour leurs subsides parce que leurs émoluments, ça ne dépend pas de moi. Les émoluments viennent chaque mois. Le gouvernement, d'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'ils ont eu encore 2 mois d'émoluments. Subside, c'est quelque chose qu'on a trouvé au niveau de la province, ainsi de suite. Mais pour qu'il y ait cette subside, il faut quoi? Il faut qu'on paye les taxes. Qui est ce député-là qui a sensibilisé la population ici pour payer les taxes? Vous savez, si l'armée ne m'envoyait pas, si le ministère de la Défense ne m'envoyait pas l'argent des fonds, n'est-ce pas, pour faire certaines activités ici, Dieu seul sait où on en serait. Heureusement, le ministre de la Défense, il fait tout pour que nous disposions des moyens. Le commandant suprême aussi, quand on n'a pas de moyens, il met la pression, il donne les ordres. Et le ministre de la Défense, il se casse vraiment en morceaux pour que chaque mois, au moins, on ait de l'argent. Mais si on n'avait pas ces fonds-là. Donc les gens ne doivent pas penser que l'argent vient du ciel ou je sais pas moi. Non, l'argent, ça vient de la population, la taxe qu'ils doivent payer, des opérateurs économiques ici. La FEC est ici tous les jours. Je les sensibilise. Mais malheureusement, bon, alors, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, malheureusement.
Parlons de la communauté internationale. La MONUSCO, c'est votre partenaire. Depuis 1 an que vous êtes à la tête de l'Ituri, quel est l'état de votre collaboration avec la mission onusienne?
Ah, je pense que vraiment, nous avons un appui de la part de la MONUSCO. Nous travaillons ensemble et nous n'avons jamais eu de problème. Je crois que vous en êtes témoin. Chaque fois qu'il y a un petit problème, il y a une incompréhension. On se met toujours ensemble pour discuter, pour échanger et pour que notre état final et recherché soit vraiment accompli. Donc vraiment, et là je félicite encore nos relations avec la MONUSCO et même avec tous les humanitaires. En tout cas, nous n'avons pas de problème. Nous les encadrons et quand nous avons, par exemple, en ce qui concerne la mutualisation, c'est sur le plan opérationnel. Si nous avons besoin des troupes et ainsi de suite, ils nous les prêtent. Pour les opérations, si nous avons besoin de logistique, notamment le casualty evacuation, et ils nous donnent les hélicoptères, on va évacuer les blessés, les malades et tout. Et sur le plan de renseignement aussi, ils nous donnent tout ce dont nous avons besoin pour, n'est-ce pas, bien opérer. En tout cas, je félicite encore cette collaboration. Elle est vraiment claire et nous n'avons pas de problème, pas de brouillard.
Dans grande interview aujourd'hui, Martial Kizabiamungu reçoit le général Johnny Luboya Nkashama, gouverneur de la province de l'Ituri. Il fait le point de la situation sécuritaire, socio-économique et humanitaire plus d'1 année après l'instauration de l'état de siège dans cette province.
Quelle est la place de la jeunesse dans votre gouvernance?
Vous savez, ce qu'on a fait ici en Ituri, c'est détruire la jeunesse. Parce que ceux qui sont en train de porter les armes aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là. Alors nous, nous avons remis cette jeunesse au centre de nos activités. Et je pense que vous êtes là, vous êtes témoin encore. C'est chaque fois que nous sommes en contact avec eux, nous essayons de tout faire pour les faire participer à nos activités, même en ce qui concerne le développement. Quand il faut réparer les routes, nous faisons tout pour que les jeunes soient concernés. Quand il faut la sensibilisation, nous faisons tout pour que les jeunes soient concernés. Et même en ce qui concerne la perception de la province. Aujourd'hui, vous avez vu par exemple, nous avons tout fait pour mobiliser le peu d'argent que nous avons ici, pour envoyer nos équipes. Ce sont des jeunes qui sont allés à Kinshasa. Et les gens se sont étonnés. Ah bon, il y a encore du sport en Ituri? Mais oui, nos demoiselles sont allées à Kinshasa. Et c'est ce que nous voulons, changer la perception de l'Ituri avec la jeunesse. La dernière fois, et je pense que la Miss va venir, Miss Indépendance. Mais oui, c'est une fille, la plus belle femme de la RDC. Elle vient d'ici, nous nous sommes préparés, on l'a envoyée à Kinshasa. Elle va revenir incessamment, je pense, la semaine prochaine pour voir ses frères et sœurs. Et pour en plus aussi sensibiliser, mobiliser la jeunesse. C'est notre fille, une Iturienne, qui va revenir. Donc moi, je veux, dans ce que je suis en train de faire, je veux mettre la jeunesse au centre des activités. Parce que si nous changeons, nous transformons la jeunesse, nous sommes sûrs que l'avenir de l'Ituri est assuré.
Et à ces jeunes qui pensent que, voilà, les vagabondages, prendre les armes, vous avez un message particulier à cette catégorie de la jeunesse?
Il faut voir d'abord tout cela qu'on appelle groupe armé ici. Dans quel état cette jeunesse est? C'est vraiment, vraiment malheureux. Et je crois qu'ils ont compris. Pourquoi ont-ils signé les actes d'engagement? C'est tout simplement parce qu'ils ont vu que, bon, ils ne peuvent pas continuer infiniment dans l'extorsion, dans la rapine, ainsi de suite. Et au demeurant, regardez un peu même leur santé. Donc mon message, il est là, c'est qu'ils reviennent au bon sentiment. Nous avons ici en Ituri, nous avons deux grandes communautés. C'est-à-dire les agriculteurs et les éleveurs. Les agriculteurs, ils ont un grand terrain, qu'ils rentrent à leurs activités, l'agriculture. Les éleveurs aussi, qu'ils rentrent à leur activité, l'élevage. Il y a ceux-là aussi qui font l'or ici, qu'ils rentrent à leur activité. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils doivent encore rester en brousse. L'Ituri les attend. Nous attendons cette jeunesse-là. Nous les attendons. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons, par exemple, le projet de 145 territoires. Mais c'est un projet qui va absorber beaucoup de jeunes. Même la reconstruction que nous sommes en train de faire, les routes et autres, ça va absorber encore la jeunesse. Et il y a d'autres programmes qui vont amener le PDDRCS, qui vont amener beaucoup de moyens ici. Donc, je demande à cette jeunesse de revenir à la raison et vraiment de s'inscrire dans le développement. Ils peuvent compter sur nous, parce que nous allons tout faire pour qu'ils aient de la place.
Pour terminer, que n'avez-vous pas encore fait, monsieur le gouverneur, et que comptez-vous faire pour que l'état de siège atteigne son objectif principal, celui de restaurer l'autorité de l'état d'Ituri, parce que les actions militaires, il y en a eu toutes sortes. Malheureusement, les morts des civils continuent à être enregistrés dans les territoires de Djougou principalement, et une partie d'Iromo et dans le territoire de Mangui.
Non, dans le territoire de Djougou, ça fait, je crois, 2 mois, il y a eu une accalmie. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, et vous êtes au courant, c'est un problème de positionnement. Qu'est-ce que je n'ai pas fait que je voudrais bien faire? Détruire les ADEF. C'est ça. En finir avec ces gens-là. Et nous avons déjà fait une grande étape là, parce que, comme je vous ai dit, cette communauté qui était la béquille des ADEF a commencé à se retirer. Ça, c'est déjà une grande victoire. Et le reste, là, nous devons continuer pour les neutraliser. Alors, sur le plan du développement, il y a encore des routes que je dois refaire pour faciliter l'accès et aussi le délai d'intervention. Vous savez, si vraiment l'accès est facile et s'il y a la fluidité, je crois que cette insécurité aussi va partir. Et l'autre chose aussi, c'est remettre la jeunesse à ces activités, comme je disais. Que les agriculteurs rentrent dans leurs champs, que les éleveurs rentrent dans leurs fermes, et ainsi de suite. Voilà ce que moi je voudrais, en tout cas dans un avenir très proche, réaliser. Et peut-être même partir. Quant à la transformation, comme je disais, la thérapeutique collective, quant à la transformation de la population, de la jeunesse, je pense qu'on a quand même touché le cœur. La paix du cœur est en train d'arriver. Les vieux aussi, il faut dire qu'ils se sont aussi intégrés. Parce que depuis, nous avons tout le temps, ces jours ici, nous avons des dialogues communautaires. C'est-à-dire là, ce sont les grands, les notabilités, les grands de cette province, professeurs et tout, les chefs coutumiers, tout le monde est là, tout le monde est engagé. Nous avons maintenant eu des dialogues intercommunautaire avec Bira, Emma, Lindou, Emma. Maintenant, nous allons passer au dialogue intracommunautaire. Les Emma vont faire leur dialogue d'ici là. Et donc, vous voyez, maintenant, nous sommes à un niveau où la jeunesse est impliquée, mais aussi tout ce qu'on a comme intellectuel, tout ce qu'on a comme crème ici à Nitouri est en train de s'impliquer parce que c'est eux qui encadrent cette jeunesse ici. Et nous avons quand même des résultats et je les en félicite vraiment qu'ils aient entendu, n'est-ce pas, notre conseil et qu'ils se soient engagés. Vraiment, je tiens beaucoup à féliciter tous les Ituriens, que ce soit les jeunes, que ce soit les notables, tout le monde en tout cas, parce que aujourd'hui, je vois que, bon, on n'a pas encore atteint le bout du tunnel, mais en tout cas, nous sommes dans les tunnels, nous avançons. Nous avançons et on voit déjà poindre, n'est-ce pas, la lumière, la sortie, on est presque à la sortie du tunnel. Voilà.
Général Johnny Luboya Kachama, merci.
Merci à vous aussi, Martial.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Supervision Alain Irung-Mouchinge, coordination Michel Kifindangoy. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission, ainsi que plusieurs autres numéros de Grande Interview en allant sur www.radiookapi.net. Bonne suite et programme sur la fréquence de la paix.